Culture Sport, le lundi soir sur Attitude dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous. Avant d'écouter Arthur Beauchaud, que nous avons reçu dans Culture Sport, le directeur sportif de l'Océan Top 16 avec qui nous allons parler vélo, on va revenir sur l'actualité du week-end, un week-end où il s'est passé assez peu de choses finalement, puisque beaucoup d'équipes charentaises en football étaient concernées par des matchs de coupe, dont on n'évoquera pas le cas ici, puisqu'il y avait beaucoup trop de matchs. Mais on va quand même parler de la CFC. En premier, la CFC qui recevait Bergerac vendredi soir. C'est un match important pour les Angoumoisins qui revenaient en championnat après leur élimination contre Trélissac. La CFC recevait Bergerac, du coup le deuxième représentant de la Dordogne de National 2. Et malheureusement, c'est une défaite pour les Angoumoisins, 2-1. Le match avait pourtant bien débuté avec le but de Léo Fichten à la 16e minute, qui profitait de l'erreur bergeracoise entre Sam Ducrot et Pocher, le gardien. Léo Fichten qui permettait à la CFC de mener 1-0. Et malheureusement, c'est Soubervi sur coup franc direct pleine lucarne qui, juste avant la mi-temps, remettait les deux équipes à 1 partout. En deuxième mi-temps, l'entrée d'Aminetom Beltran pour Bergerac a posé d'énormes problèmes à la CFC. Et malheureusement, eh bien c'est Beltran qui avait déjà marqué l'an dernier au Stade Lebon, qui permet à Bergerac de mener 2-1. Un score qui sera confirmé puisque Bergerac s'impose 2-1 à Lebon. Un match qui s'est joué sur des détails. Malheureusement, ça a tourné du côté bergeracois. C'est un match assez équilibré. Malheureusement, la CFC n'a pas eu la réussite de son côté. Au niveau des autres résultats de cette 9e journée de National 2, Les Herbiers a battu Andrézieux 2-0. Bourges a battu Vierzon 2-1. Romorantin et Moulins ont fait 0-0. Nantes a battu Angers 2-0. Trélissac et Gol FC ont fait 0-0. Saumur a battu Chamalières 3-1. Et enfin, Lorient, dans un match très prolifique en but, a battu le Stade Bordelais 5-4. Au classement, c'est le Gol FC qui est premier avec Saumur à 16 points. Les Herbiers, Bergerac sont 3e et 4e avec 13 points. Angoulême du coup descend à la 11e place avec 9 points, avec 1 point d'avance sur la zone rouge. En régional 1, en poule A, on joue les matchs en retard avec notamment Cognac qui recevait Mérignac-Arlac, l'une des grosses formations de la poule. Et c'est la première victoire en championnat pour la formation d'Alvin Henry, qui, après avoir perdu 3-0 contre Mérignac et ça, jouait contre Mérignac-Arlac. Il y a deux équipes de Mérignac en R1. Et donc c'est Cognac qui s'impose 1-0. Une bonne opération pour Cognac au classement, qui remonte à la 10e place avec 5 points. La réserve de la CFC est désormais 7e avec 8 points. En Régional 2, on jouait également des matchs en retard. Hein. C'était les aventuriers de la Coupe de France qui rattrapaient leur retard. Charente-Limousine a battu Cognac 2-0. Et malheureusement, Mirepin s'est incliné à domicile contre Périgny 2-1. Au classement, Charente-Limousine est 2e avec 12 points. Mirepin est 8e avec 6 points. Et enfin, et en fait, Cognac est 11e avec 3 points. On va parler de football féminin avec la Jissoyou qui recevait le Stade de Reims. C'était donc la deuxième sortie de Michel Brazaïa au Stade de Lagrange après la défaite contre Le Havre 4-1. Malheureusement, ça a été également le score de ce match contre Reims, puisque Reims s'impose en Charente par 3 buts d'écart. Un score sévère hein, pour Soyou qui était malgré tout revenu à égalité à l'heure de jeu grâce au magnifique but de Laura Condon. Au final, c'est Reims qui malheureusement va faire la différence en fin de match par plusieurs ballons qui ont transpercé la défense de la LJ. Et donc c'est le Stade de Reims qui s'impose 4-1. À Léo Lagrange, les autres résultats de cette D1 féminine, Rodez et Dijon ont fait 1 partout, le Paris FC et Bordeaux ont fait 1 partout, le Paris Saint-Germain et Montpellier ont fait 2 partout, Guingamp et Lyon ont fait 0-0, et enfin Fleury bat le Havre 3-0. Au classement premier, Lyon 19 points, deuxième Paris Saint-Germain 17 points, et troisième le Paris FC avec 15 points. Soyou est dixième, premier non relégable avec 4 points, mais à égalité de points avec Rodez qui est 11e. On rappellera la victoire du SA15 contre Agen vendredi soir, un superbe match, victoire 16-12 pour les Angoumoisins qui font tomber l'un des gros à Chanzy. Il y avait d'ailleurs une très belle ambiance. En national, pardon, Cognac malheureusement s'est incliné à Narbonne 50-13. Malheureusement pour Cognac, le chemin de croix continue, j'ai envie de dire, parce que Cognac malheureusement n'a pas gagné un seul match pour l'instant en championnat. Qu'on espère que les Cognacés vont vite enregistrer leur première victoire. Et en Fédéral 1, Barbezieux obtient sa deuxième victoire de la saison en s'imposant contre Salles 19-12. Une belle victoire, un match abouti pour les Charentais, ce qui menait déjà à la mi-temps 16-0, donc un succès construit. En première mi-temps en handball, pas de handball féminin, puisque en ce moment c'est l'Euro féminin de handball, donc il y avait juste les Techs qui jouaient. Les Techs se déplaçaient du côté d'Andaille et les Charentais se sont imposés 31 à 26, une victoire qui leur permet d'être deuxième au classement, égalité avec Bruges 33 qui est leader. Donc les Tech comptent 16 points, 5 victoires, 1 défaite. Un très bon départ pour les hommes de Rémi Fougère qui sont en lice pour la première place. On va terminer par le judo, hein, c'était l'événement du week-end, les championnats de France, première division du côté de Toulon. Et malheureusement, déception pour la couronne Grand Angoulême Judo qui reviendra en Charente sans médaille, puisque on va le voir tout à l'heure, hein, mais Julie Pierret n'a pas réussi à accrocher le podium. On va faire le détail des 5 judokas du coup qui étaient présentes à Toulon, avec Manon Desfarges en moins de 48 kilos, qui malheureusement s'incline dès son premier tour contre Myriam Samraoui. En moins de 57 kilos, déception pour Morgane Artuis, hein, qui avait été chercher une belle médaille de bronze en Slovénie il y a quelques semaines. Bah, malheureusement, Morgane s'incline dès son premier combat contre Eulalie Desbiol, qui était licenciée à Shell, donc en région parisienne. Et malheureusement, Morgane Artuis perd son premier combat. Défaite au premier tour également pour Marie Desangles, qui s'incline contre Yelena Rezo, qui est également licenciée à Shell. Et enfin, à moins de 78 kilos, eh bien, les parcours sont venus de cette catégorie, puisque Ilana Bouvier, qui disputait son premier championnat de France senior, bat Vanessa Duro au premier tour. Ensuite, elle s'impose contre Louane Brustel, avant de perdre logiquement contre Chloé Dolin. Quant à Julie Pierret, c'était la plus grande chance de médaille française, hein, Julie, qui est deux fois championne de France, 6 médailles en tout au championnat de France. Julie Pierret bat Marion Dezobry au premier tour. Ensuite, elle s'impose contre Marie Fernandez. Et malheureusement, en demi-finale, elle retombe contre Audrey Tchuméo. Tchuméo qui l'avait battu la saison dernière. Et malheureusement, Pierret s'incline contre Tchuméo. Du coup, elle est basculée pour la place de troisième, où elle affronte Irène Lavillonnière. Irène Lavillonnière, c'est la championne de France de deuxième division. Et malheureusement, bah, Julie Pierret va écoper 3 avertissements. 2 avertissements pour être sortie du tapis et un avertissement en commun avec Lavillonnière pour refus de combattre. Et donc, bah, malheureusement, c'est Julie Pierret va terminer cinquième de ce championnat. Donc forcément, une déception pour la couronnaise qui était venue chercher une médaille. On retrouve tout de suite Arthur Beauchaud au micro de Didier pour faire un point sur la saison du top 16 en cyclisme. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash résultat. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons Arthur Beauchaud de l'équipe Océane Top 16. Arthur, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour à tous et salut à toute l'équipe. Enfin, toujours un plaisir de venir avec vous.
Arthur, ce que je te propose, c'est de faire un bilan de la saison passée, de nous expliquer un petit peu quelles ont été les arrivées et les départs, et ensuite je te laisserai aux mains ô combien expertes de Christian pour te poser des questions qui vont bien.
Déjà, merci à vous de m'accueillir encore une fois, c'est toujours un plaisir.
C'est un plaisir de partager, Arthur.
Bon, bah, tant mieux alors. Non, mais du coup, pour répondre à la première question, le bilan de la saison, on a vécu l'ensemble des équipes de National en cyclisme, là, ont vécu une année particulière, avec une espèce d'épée de Damoclès d'une nouvelle réforme pondue par la fédération au courant de l'hiver à l'intersaison, officialisée au début, enfin milieu février, une fois que la saison avait déjà bien commencé. Et puis après, on était dans le flou puisque on doit être le 2 novembre, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et à l'heure où on se parle, j'ai toujours pas le règlement de l'année 2022 sur les montées-descentes des nationales. Donc ça, c'est un peu l'ambiance globale de l'année où on a eu des infos, des contre-infos, des nouvelles, des bris de règlement, et en fait, on a navigué dans le flou avec une possibilité qui était quand même pas négligeable de se faire reléguer à la fin de la saison.
Parce que si on part de zéro, vous étiez combien de formations en DN1 cette saison ?
27.
D'accord. Et la réforme, c'était plus pour en avoir moins ou en avoir plus ?
En avoir beaucoup moins, puisque quand le pro... Alors en fait, ils ont fait le but du jeu, c'était de faire un classement par points en fonction des coureurs, etc. Quelque chose de très compliqué à calculer.
Un peu comme sur les joueurs ICI, c'est ça ?
Un peu sur le même principe que les UCI, ouais. Et au moment où ils ont publié leur premier classement, il restait plus que 13 N1. Donc c'était très très dégressif.
Ah oui, ça faisait vraiment la moitié,
la moitié
qui était sans relégué.
C'est ça. Et après on se retrouvait du coup en National 2 avec 35 équipes, ce qui était aussi complètement illogique. Donc on a évolué toute la saison avec cette épée de Damoclès sans réellement savoir où est-ce qu'on allait, avec une pression qui était monstre parce qu'il fallait tous les week-ends marquer des points. En plus de ça, c'est la réforme n'était pas prise sur toutes les sur tous les coureurs. C'était que sur une partie de l'effectif. Donc en fait, on met la pression toujours au même coureur. Et au final, on rentre soit dans un cercle vertueux quand tout se passe bien, soit dans un méchant cercle vicieux quand tout se passe mal. Et on a du mal à en sortir. Et globalement, on coule doucement vers le fond en essayant de se débattre. Mais globalement, ça a été beaucoup de bruit pour pas grand chose puisque à la veille de Paris-Tours, qui est l'une des dernières courses de la saison, au 15 octobre, un mail de la fédération, juste un mail hein, d'ailleurs, nous a été envoyé à nous, équipe, en nous disant bon, bah, finalement, on annule la réforme et on la mettra en place l'an prochain. Donc, c'était beaucoup de bruit pour pas grand chose, beaucoup de stress pour pas grand chose, beaucoup de pression, et c'était pas une année simple.
Et donc, les perspectives pour l'année qui vient, alors c'est quoi?
Ben, les perspectives pour l'année qui vient, du coup, si on se fie à la réforme, nous, on est tout juste. C'est-à-dire qu'on est la dernière équipe non reléguée en termes de points. Donc, on n'entame pas l'année avec un retard de points. Parce que la réforme qui devait être rédhibitoire au bout d'un an, maintenant fonctionnera tous les deux ans. Donc tous les deux ans, on a deux ans pour marquer des points, puis à la fin des deux ans, ceux qui ont passé de points sont reliés.
D'accord, donc là vous repartez sur un bail de deux ans en N1 grosso modo.
Bah du coup on repart sur un bail d'un an, puisque sur la réforme était censée être prise sur un an cette année, pas sur deux ans, donc englobe l'année 2022.
L'année passée et l'année prochaine du coup, 2022 voilà. Et 2023.
C'est ça.
Les coureurs marquent des points à chaque course ou c'est que sur les manches de Coupe de France?
Alors la Coupe de France ne sert plus à rien, oui. Hormis à qualifier plus ou moins de coureurs pour les championnats de France. Voilà. Ensuite, en fait, c'est un calcul compliqué. Je veux pas noyer tout le monde là-dessous, mais en fait, c'est que les courses de France. C'est les 8 meilleurs coureurs. Enfin, c'est les 8 coureurs qui ont le plus de points dans chaque équipe.
D'accord.
Et après, sur ces 8 coureurs, on prend leurs 15 meilleurs résultats.
Mais potentiellement, ça peut dériver vers une course à l'armement. Je m'explique dans le sens où quelqu'un qui a beaucoup de points cette saison peut changer d'équipe. Il peut être hyper sollicité parce que les points qu'il aura gagnés en 2022 seront conservés pour le calcul.
Alors c'est hyper complexe, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que un coureur, par exemple, nous on a des coureurs qui partent de chez nous, les points restent attribués à nous et pas
d'accord, ok.
Voilà. Donc
Antonin Souchon qui part à Association Espoir, il a marqué des points avec vous, c'est des points que vous conservez et qu'il n'emmène pas avec lui à Association.
Exactement. Okay. Exactement. Mais après, ça reste la course à l'armement puisque entre au moment de faire les recrutements, quand on a le choix entre prendre un gamin qui a besoin de se former, peut-être besoin d'une ou deux saisons pour être performant, et à côté de ça, on a le choix d'un vieux athlète entre guillemets qui lui est déjà opérationnel, et bien le choix il est tout fait puisqu'à la fin de la saison il faut se sauver,
donc c'est un peu comme en pro team au final où le plus important c'est de marquer des points à tout prix pour éviter la relégation.
C'est ça donc, du coup on est en train de sacrifier la formation.
Ouais, donc finalement ça engage pas mal les clubs de D1 à recruter des anciens pros comme Romain Fayu par exemple qui avait fait pas mal parler de lui sur les saisons précédentes, enfin des anciens gars qui redescendent en amateur et qui claquent des victoires assez régulièrement.
C'est ça. C'est vers ça que le système tend. Alors, c'est pas ma conviction première, mais on est forcé de prendre le train en marche. On essaye de faire notre maximum pour prendre un maximum de mots, et de les former, mais c'est pas simple. C'est pas simple.
Je voulais savoir, on parle de DN1, on parle de DN2, donc j'ai bien compris que c'était les divisions. Mais pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une grosse marge d'écart entre la DN1 et la DN2? Est-ce que concrètement, OCN Top 16 pourrait survivre en DN2 et continuer si jamais il y avait relégation un jour?
On a les 5 premières équipes de N1 qui sont très loin du niveau N2. Et après, on a les équipes de fin de tableau N1 qui, mais comme dans beaucoup de fédérations, en fait,
hein, oui, tout à fait.
Les fins de tableau de certaines divisions sont légèrement plus développées ou à équivalence proche des équipes de haut de tableau de la division en dessous.
Et à contrario, est-ce qu'il y a des formations de DN2 qui pourraient vraiment bien performer en DN1 à l'heure actuelle?
Oui. Il y en a plusieurs. J'irai même plus loin. Je pense qu'il y a une équipe de National 3 qui a fait un très 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 gros recrutement cet hiver et qui, si les coureurs ont les mêmes résultats que cette année, pourront vu que c'est plus qu'une question de points, faire le gap entre N3 et N1 direct.
Toi qui es dans le vélo depuis longtemps, en tant que coureur, maintenant directeur sportif, ce système de division, est-ce que tu le trouves bien et qu'est-ce que tu modifierais si on te donnait par magie là les pleins pouvoirs? Tu imagines que tu changerais plein de choses?
Vaste question. Moi, je pense que... Alors, c'est une conviction personnelle, hein, mais je pense que la priorité en National 1, et je dis enfin en National tout court, la priorité dans le cyclisme, c'est pas de savoir combien on a d'équipes en N1, combien on a d'équipes en N2 et combien on a d'équipes en N3. Le plus important, c'est de savoir pourquoi on a pu les capacités d'avoir autant d'équipes en National qu'on avait pu l'avoir. Alors c'est quasiment la même question, mais c'est pas forcément la même réponse. On a plus de coureurs. Dans les catégories jeunes, on a depuis 2019, j'en parlais hier avec le comité régional de Nouvelle-Aquitaine, une baisse de 20 à 30% de participation dans les courses chez les jeunes. On est en train de boucher le trou, là, entre guillemets, puisqu'on a des clubs qui refusent des gamins puisqu'il n'y a pas assez de place. Mais globalement, on va avoir un vide là, de 3-4 ans qui en fait met à mal toutes les équipes parce qu'on a du mal à recruter parce qu'il y a moins en moins de coureurs, on a du mal à courir parce qu'il y a moins en moins de courses. Et moi je pense que la vraie problématique du vélo, c'est pas de savoir s'il faut mettre 27 N1 ou pas, la vraie problématique du vélo, c'est de savoir comment on fait pour re-rendre le vélo dynamique et donner à ce sport qui est un sport purement populaire, mais qui devient le sport populaire pratiqué par les riches, parce que on arrive sur du matériel qui est monstrueux, etc. Comment on fait pour redynamiser une discipline, et faire en sorte que tout ça crée une dynamique vers le haut, parce que pour l'instant le sommet de la pyramide vit très bien, le bas est en train de s'éroder à vue d'œil. Il y a un moment donné, quand l'étage d'en bas va tomber. Normalement, enfin, s'il reste une pyramide, hein, tout le reste suit. Donc,
oui, bien sûr. C'est vrai que si vous avez des problèmes de recrutement, dans 5 à 10 ans, peut-être, ou peut-être moins même, bien, il y aura peut-être moins de coureurs français qui pourront passer chez les pros. Et donc, ce que vous vivez maintenant, peut-être que les équipes de pro team, que ce soit en première division ou en continental pro, c'est des problèmes qu'elles auront aussi peut-être par effet de ricochet au final.
C'est exactement ça. Donc moi voilà, si je devais avoir les pleins pouvoirs, je pense que je me pencherais sur cette question qui est pas simple, hein. Mais le cyclisme en général a loupé plein de virages. On a loupé les droits télé, on a loupé un milliard de trucs, on a loupé les droits de formation pour les clubs amateurs, on a loupé énormément de virages dans une structuration qui reste le nerf de la guerre, ça reste l'argent, faut être très honnête. Donc nous on forme un coureur pro, il passe dans une très grande équipe pro, et ben on a l'image que ça donne, c'est tout ce qu'on a, mais on n'a pas de revenus financiers, on n'a pas de droits de formation. On passe à la télé, c'est très bien, les sponsors sont contents, mais on n'a aucun retour derrière. Donc je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Et puis après, on reste un sport. Moi, personnellement, j'ai jamais compris. On a un milliard de fédérations qui proposent des licences de vélo. On a l'UFOLEP, la FFGT, on a un milliard. C'est très très bien d'avoir plusieurs offres, mais en fait on se retrouve déjà à faire la guerre entre fédérations, ce qui est un peu idiot parce qu'on fait exactement le même sport, mais on se retrouve aussi du coup à avoir très peu de coureurs dans chaque fédération, alors que si on regroupait l'ensemble des fédérations, on serait une fédération énorme.
Mmh. Oui, d'autant plus qu'en plus en fédération française de cyclisme, il y a ceux qui vont faire de la route, mais il y a ceux qui aussi font de la piste, ceux qui font du BMX, du VTT. Donc au final, rien que dans votre fédération à vous, il y a plusieurs branches et les coureurs partent pas forcément tous sur la route.
Exactement, exactement. Donc on a plusieurs sport dans notre sport, on va dire. Oui. Et à côté de ça, on a plusieurs fédérations qui proposent autant de choses que la fédération délégataire. Donc je pense qu'il y aurait un travail de fusion des fédérations déjà dans un premier temps, ce qui permettrait de gonfler les licences, enfin les nombres de licenciés, et par effet de ricochet amener plus de coureurs sur les courses, amener plus d'argent, etc., etc., etc. Donc c'est le système des vases communicantes, mais je pense que le si j'avais les pleins pouvoirs, alors c'est facile à dire hein, parce que je les ai pas, donc mais je commencerai, je pense, par ça.
Par rapport au regard que tu as sur la LDN1, c'est vrai que maintenant ça fait longtemps que le top 16 y est. Je dirais que ça fait au moins 10 ans, même s'il y a eu une petite relégation, vous êtes remonté. Alors je sais pas si tu as un regard par 10 ans en arrière, mais comment tu vois cette division évoluer par rapport à il y a quelques années où le club était déjà présent à ce niveau-là?
Ça évolue vite, très très vite. J'en discutais avec un ami DS dans la saison. Je pense que très honnêtement et très sincèrement, les équipes de N1 de maintenant, c'est les équipes Conti Pro d'il y a 10-15 ans.
Oui.
Ça évolue tellement vite que les structures comme la nôtre, hein, faut être honnête, on a parfois un peu de mal à suivre parce que le train il est en marche et c'est plus un TGV qu'un TER, donc globalement ça va très très vite. Mais après on est confronté à plein d'évolutions, le vélo change, le monde change, le sport change. On est en train aussi de devenir un sport un peu comme le foot où les équipes professionnelles commencent à mettre des contrats sur des gamins de 14, 13 ans. Et du coup, nous, on était censé être l'étage intermédiaire où on forme les jeunes quand ils sortent des petites catégories. On les emmène au plus haut niveau amateur pour qu'ils passent professionnels. Et en fait, cet étage-là est en train de disparaître puisque les équipes, comme les grandes équipes du Tour de France, hein, FDJ a son équipe continentale. Qui regroupe des jeunes, la Jumbo Visma là, la DSM là.
Oui, grosso modo, tu veux dire que du coup que les jeunes finalement ils sautent votre étape pour aller directement chez les grosses structures professionnelles, quitte à être en équipe réserve pendant quelques années au départ.
Exactement.
Bah, c'est un peu ce qui s'est passé par exemple avec des coureurs comme Remco Evenepoel, hein, qui a gagné le Tour d'Espagne récemment. Qui, bon, lui, ça a été un jeune prodige qu'on a directement vu qu'il allait faire une grosse carrière, mais il a signé très jeune chez Quickstep.
Oui, c'est ça. Donc on a, je pense, nous, si on se penche pas réellement sur la question de pourquoi on existe et pourquoi on doit travailler, je pense que sincèrement, d'ici 15 ans, 20 ans, grand max, allez. Les nationales, elles auront plus de raison d'exister.
D'ailleurs, moi, je vois surtout dans le football une équipe comme la CFC qui est en National 2, donc la quatrième division française. C'est donc le club est amateur, mais les joueurs ne font que du foot. Il y a beaucoup de contraintes, le cahier des charges est énorme pour être à ce niveau-là. Est-ce que pour vous c'est pareil? Est-ce qu'on vous demande de plus en plus de choses chaque année?
Oui, c'est exactement ça. Quand je disais tout à l'heure le train était en marche et qu'il allait vite, on en est là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut faire de plus en plus de choses. Il faut aller sur du matos qui est de plus en plus professionnalisé, du coup de plus en plus cher. Et c'est de moins en moins simple. Il faut des personnels qualifiés pour travailler avec ce matos-là, etc., etc. Donc oui, en fait, on a un cahier des charges qui commence à être plutôt épais. Et des contraintes de la vie de tous les jours qui aident pas à un développement. On passe notre temps sur les routes, et si je dois donner qu'un exemple, on prend une claque sur le budget gasoil cette année. C'est autant d'argent qu'on mettra pas dans le développement de la structure parce qu'il est déjà dépensé. On prend presque 10 000 euros de plus sur le budget gasoil, donc c'est un gros billet. Après, oui, il faut continuer à se développer, il faut en faire de plus en plus. C'est de plus en plus chronophage, fatigant. Il faut de plus en plus de monde, donc ouais, il faut un développement structurel, il faut un développement intellectuel aussi, parce que tout change, l'entraînement change, le matos change, il faut un développement humain surtout qui lui est conséquent.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Arthur Beauchaud qui répond aux questions de Christian.
L'an prochain, vous aurez combien de coureurs et votre budget sera à peu près de combien?
Donc l'an prochain, on sera 15 ou 16 coureurs. Voilà. Pour l'instant, 15.
Il faudrait faire 16 comme la Charente.
Exact. Voilà. On va essayer. Et le budget, il reste constant depuis plusieurs années, et c'est là aussi que les structures, les petites structures de nains comme nous ont du mal à suivre, puisque
ouais, j'imagine que les budgets des grosses équipes augmentent, et puis en plus il y en a certaines qui sont soutenues par Vendéus et soutenues par Direct Energy, par Total Energy.
Total, ouais, c'est ça.
Donc donc au final ils ont des moyens que vous malheureusement vous pouvez pas avoir, parce qu'il y a pas de, vous avez pas une structure parente au-dessus de vous, quoi.
C'est ça. Donc c'est un travail de tous les jours. On essaye de s'affilier avec une équipe pro. On essaye de développer notre budget. On va engager quelqu'un qui est dédié à ça, à la recherche de partenaires. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions pour répondre aux problèmes qu'on commence à avoir.
Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un peu le village gaulois qui résiste à l'envahisseur romain, ou est-ce que ce serait une image qui est quand même un peu exagérée?
C'est une image c'est une image exagérée parce que sur les 27 nains, je pense que des villages gaulois, il y en a bien 15 ou 16 quand même.
Oui, oui.
D'accord, ouais.
Oui, puis finalement, vous n'êtes pas les plus mal lotis, dans le sens où moi, j'avais des contacts en début de saison, puisque j'écrivais encore à Sud-Est à ce moment-là, et c'était Charente, Charente-Maritime, j'appelais aussi le directeur sportif de UCUP 17, alors c'était un ressenti personnel, forcément, j'avais pas de fait matériel, mais je les sentais quand même beaucoup plus en difficulté que vous.
Je pourrais pas dire s'ils étaient plus en difficulté que nous, quand je disais tout à l'heure qu'il faudrait se pencher sur la structure financière du vélo. Cette année, il y a deux clubs, fin juillet, début août, ils ont commencé à annoncer dans la presse, à dire à leurs coureurs. Là, on a un trou qui commence à approcher les 100 000 euros.
Ah oui.
Ah oui, quand même.
Là, ça commence à pas être bon. Donc, c'est des clubs qui, au final, vont réussir à se sauver de justesse, mais qui vont sacrifier un milliard de trucs. Donc, y a énormément de clubs qui sont. On est sur le fil du rasoir, énormément de clubs. Et globalement, si on prend le classement qui avait été publié là, où il y avait les 13 équipes qui étaient non reléguées, on a l'étendue du vélo. Mais ce qui est triste et dommage, c'est que ça se résume à deux régions, quoi. C'est la Bretagne et le Rhône-Alpes, qui sont deux terres de vélo où c'est plus facile d'avoir des partenaires qui donnent pour le vélo que parce qu'il y a pas d'autres sports, ou du moins c'est le sport phare, voilà. Et du coup, on se retrouve dans cette situation là.
D'ailleurs, quand on prend, alors je suis sur Derek Bello et il y a le challenge par équipe. Quand on prend ce challenge, d'ailleurs, vous êtes classé du coup 19e équipe française à ce niveau là, avec 1898 points. Ouais. 19, du coup, on est dans les 20, mais on n'est pas dans
c'est
les 13,
ça. C'est ça. Ben voilà, t'as tout dit. Non, nous on n'est pas. Je vais pas me plaindre non plus. On n'est pas non plus en train de poser l'hypothèque, etc. Mais globalement, on fait partie de ces quinzaines de structures qui ont quelques années pour inverser la tendance, pour se développer, pour travailler comme il faut, puisque. Parce qu'on a plus de difficultés à suivre le wagon que certaines structures, ça c'est une évidence.
D'un point de vue sportif, donc, je vais rapidement parler de la Coupe de France des Nains. C'est un peu les épreuves entre guillemets. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça phare, mais en tout cas c'est cette Coupe de France. Donc c'était sur 5 épreuves. C'est Malheureusement, des épreuves, il n'y a pas eu de super résultats pour vous. Il y a eu, je crois qu'il y a des chutes à la Vienne classique. Vous êtes dans le super coup sur le pays d'Aix, mais malheureusement, vous faites rattraper à quelques encablures de l'arrivée. Par contre, il y a vraiment une belle évolution sur le chrono 47 où vous terminez 16e comme la Charente. Hein, on aime bien notre petit territoire. Et ça a été peut-être plus compliqué sur les boucles de l'Artois et les trois de Cherbourg. Qu'est-ce que tu retiens de ces 5 épreuves de Coupe de France, et est-ce que en 2022, bientôt 2023, est-ce que cette Coupe de France, elle est encore révélatrice des forces en présence?
Non, je vais être très honnête, c'est un point de vue qui est personnel mais qui est de plus en plus partagé. Il y a sur les 27 nains, il y a plusieurs équipes qui font l'impasse sur la Coupe de France. Ils envoient une équipe parce qu'il faut, on a l'obligation d'y être, mais qui globalement s'ils font dernier, c'est pas très grave. Le seule chose à quoi ça donne droit, c'est un nombre de places plus important ou non au championnat de France. C'est le seul intérêt de la Coupe de France. Marquer quelques points, parce que dans le règlement, là, des montées descentes avec les quelques points.
Ça veut dire que la dernière épreuve, elle est caduque au final, parce qu'elle est bien après les championnats de France.
Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a aucune logique, c'est-à-dire que c'est compliqué. Donc on n'a pas été bon sur les coupes de France, mais globalement, alors quand on est là-bas, c'est pas marrant de se prendre une fessée. On est quand même des sportifs, on va quand même sur les coupes de France pour se battre avec l'ensemble des nains. Donc il y a quand même un intérêt. Hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est plus la Coupe de France d'il y a 10 ans où on jouait notre vie là-dessus. Maintenant, on va à la Coupe de France, ça se passe bien, tant mieux, et puis on joue la Coupe de France à fond. En fait, on a une Coupe de France qui ressemble un peu au foot. Il y a des clubs qui vont prioriser la Coupe de France et d'autres qui vont prioriser la Ligue 1.
Pour vous, la Ligue 1, du coup, c'est finalement, c'est les courses que vous courez tout au long de la saison.
Exactement. Moi, je préfère autant qu'on fasse top 15. Je préfère faire top 15 du classement de toutes les équipes que faire top 15 à la Coupe de France. Ça me fera rien gagner.
Ouais. Malgré tout, bon, je vais quand même revenir sur un truc plutôt positif. C'est le chrono par équipe. Donc, c'était un chrono dans le 47. Donc, c'est le Lot-et-Garonne, je crois. Oui. Vous terminez 16e. L'an dernier, il me semble que vous aviez fini dernier ou avant-dernier. Donc, ça, c'est vraiment une belle progression de votre part.
Alors, je vais le corriger. Il y a 2 ans, on finit avant-dernier.
Il y a 2 ans, pardon.
L'an dernier, on finit 19e. Et cette année, 16e.
Oui, et puis en plus, pas très loin de certaines équipes qui étaient devant vous, là. Ça aurait pu être encore mieux, ce résultat-là.
Oui, c'est vrai que si on gagne 10 secondes sur l'ensemble de notre chrono, on gagne 3 ou 4 places de mémoire, je crois. Donc, on était dans le ventre mou des équipes. Où c'était plutôt pas mal. Donc ça fait partie des choses qu'on travaille et qui font partie de notre liste de développement. Le contre-la-montre sur un développement matériel, un développement technique, un développement d'effectif aussi. Le but étant d'être réellement performant sur cette discipline.
Oui, tout à fait. En tout cas, on peut noter qu'il y a une progression d'année en année, donc c'est positif. C'est-à-dire que le travail paye et que les coureurs, gagnent en homogénéité et qu'ils gagnent, je sais pas s'ils gagnent de la force, mais en tout cas, ça progresse.
On essaye.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Arthur Beauchaud qui répond aux questions de Christian.
Donc, on va pas forcément revenir sur toutes les courses de la saison, mais grosso modo, Arthur, s'il y avait quelques résultats à noter, quels sont vos faits de gloire positifs sur la saison? Et puis, inversement, est-ce qu'il y a des courses où vous êtes raté et où ça t'a déçu?
Oh là, il peut y avoir beaucoup de réponses à cette question. Non, si je devais retenir une course positive, je retiendrai pas forcément le meilleur résultat de l'année. Je retiendrai le Grand Prix de la Tomate à Marmande, où on a en fait un jeune espoirin qui se retrouve devant et qui nous, dans la voiture, nous a surpris puisqu'il est, il a démontré des capacités de gestion. On aurait dit un ancien un peu vicieux là. Il sautait un ou deux relais, il était plutôt malin, donc c'est pas forcément un gros résultat, mais dans la façon de faire, et ça prouve quelque part qu'on a raison dans notre façon de faire à nous, de recruter des gamins, d'essayer de les former, parce que ça paye. Donc ça, c'est vraiment la course que j'ai envie de retenir, parce que c'est un point positif pour l'avenir. Voilà. Et puis à l'inverse, il y a quelque chose que je devrais, qui moi m'a laissé un goût amer. C'est la Sport Braise ou non, j'ai pas parlé, non, c'est la Vigne Classique. Voilà, c'est la Vigne Classique. La Vigne Classique, c'est une Coupe de France à la maison, on a nos sponsors qui sont de Poitiers. On met tout en place pour que ça se passe bien. Un mois et demi avant la Coupe de France, je vais repérer l'entièreté du circuit. Donc on essaye de faire vraiment ça au mieux. Et puis toute la journée, tout se passe bien. Tout se passe bien, on fait vraiment ce qu'il faut et deux chutes massives à la première à 3 km de l'arrivée, la deuxième à 1 km de l'arrivée, et on perd le premier sprinter à 3 bornes et le deuxième à 1 km. Donc on passe d'un résultat qui aurait pu être excellent à la maison à une déception amère.
Ouais, d'autant plus que c'est vrai que l'historique sur cette course était plutôt bon. Louis Lapierre, notamment, c'était pas mal illustré sur les années précédentes.
C'est ça.
Je crois que tu es troisième, d'ailleurs, en 2021, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Ouais, et puis en plus, il est de la Vienne, donc c'est un peu sa course tiche.
C'est ça, c'est clairement ça. Donc, celle-là, elle a laissé un petit goût amer, quand même.
Ouais. Et avant de parler du recrutement version 2023, moi j'aimerais revenir sur celui de 2022. Un recrutement intéressant puisqu'il y avait beaucoup de jeunes, des jeunes. Alors j'en ai peut-être trois en mémoire de nom, hein, mais des Mathis Tiffaigne, des Valérian Lajeunesse, des Julien Azil-Lozache. Est-ce que tu sens qu'ils ont passé des steps, des étapes au fil de la saison?
Ils ont. Je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un recrutement de très jeunes aussi qualitatif. Ils ont démontré toute l'année quelque chose, enfin que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, vraiment d'énormes capacités. Dès le début de saison, on a un coureur comme Mathis Tiffaigne qui allait chercher des top 20 en élite. Après, on a Julien qui sur les courses difficiles ou sur la course de Marmande par exemple, a aussi été capable d'aller chercher des places. Valérian a énormément progressé cette année aussi, il est champion régional des deuxièmes catégories. Il a fait un taf monstrueux. On s'est retrouvé autour des Deux-Sèvres, où il était originaire, en arrivée dans son village natal, à défendre un maillot jaune. Et c'est quand ça bordurait à 60 à l'heure, c'est le gamin de 19 ans qui descendait à la voiture chercher les bidons. Il a fait 5 ou 6 allers-retours dans la journée. Donc non, on a trois jeunes là qui sont vraiment vraiment un fort potentiel.
Ouais, puis ce qui est aussi positif, c'est que ces jeunes là ils sont encadrés par des éléments d'expérience, des coureurs comme Jérémy Bilico qui a connu le monde pro, Rudy Fievès qui a aussi fait un passage chez les pros. Quand on est en contact de ces deux coureurs là avec peut-être Louis Lapierre aussi qui a pas mal d'expérience maintenant, c'est vrai que pour les jeunes c'est une formation accélérée, j'ai envie de dire.
Oui. Il y a une formation qui se fait sur le terrain, sur le vélo, au moment où faut pédaler, qui est efficace, puisque Jérémy est avec eux, Rudy, les anciens, il n'y a pas que, il y a Mathieu, il y en a un paquet qui sont avec eux. Donc c'est vrai qu'ils ont cette facilité-là. Et en plus, ils écoutent beaucoup et ils comprennent vite. Donc on gagne du temps avec eux.
D'ailleurs, comment ça se passe sur une course? Est-ce que ces coureurs expérimentés donnent des conseils vraiment, parce qu'eux, ils sont sur le vélo à côté des jeunes, donc ils peuvent directement leur parler. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les jeunes et les anciens pour des petits conseils? Et puis j'imagine aussi que pour un jeune coureur à côté de coureurs de Vendée-U ou de Rouen ou de Sojasen Espoir, les voir un peu, c'est un peu comme au Tour de France quand t'as un coureur de Jean de la Tour qui monte en début de peloton et qui se retrouve avec des US Postal. C'est hyper formateur d'être dans ce peloton là finalement.
Oui, c'est vrai que le monde des nains est rempli d'athlètes différents et talentueux, donc il y a une formation accélérée qui est monstrueuse. Donc non, c'est vrai que se retrouver passer de sortir junior et se retrouver en N1, alors c'est pas marrant tout le temps parce qu'on prend quand même un paquet de fessées, parce que le niveau est tellement élevé que c'est pas simple tous les jours, mais euh, mais on est sur une formation accélérée. Ouais.
On va parler aussi du recrutement donc 2023. Donc il y a sept arrivées pour l'instant, en tout cas, avec peut-être une huitième. C'est ce qu'on se disait hors antenne. Le premier coureur, donc on va les faire un par un, et tu vas pas nous décrypter un peu quel profil du coureur c'est. Mais c'est un fils d'un ancien pro, hein, puisque Anthony Langella a passé le relais à Lilian Langella. Alors est-ce que c'est un jeune qui est un peu dans la veine de votre recrutement, c'est-à-dire prendre des jeunes coureurs avec du potentiel, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà plus expérimenté?
Lilian, c'est un coureur plus expérimenté. Il est un peu plus âgé que les autres coureurs, et c'est un coureur qui est déjà efficient, dans le sens où il est déjà capable d'aller marquer des points, capable de rentrer sur des top 5, des podiums. Donc c'est un coureur qui est éminemment capable d'aller chercher pas mal de choses. Lilian, il arrive chez nous justement pour se développer et confirmer son potentiel.
Et puis en plus, bon, il a, j'imagine qu'il y a eu un père professionnel, je crois, chez Crédit Agricole à l'époque. Il a baigné dans le monde du vélo tout gamin déjà.
Oui, c'est une famille de vélos, hein, donc oui. on mange, on respire vélo. Lilian a l'an dernier passé ses diplômes pour être futur entraîneur ou directeur sportif, donc il est en plein dedans. Il se laisse encore quelques années pour faire du vélo. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne.
Et donc c'est pas le seul de la GSC Blagnac, hein, puisque il y a Louis Ferreira aussi qui arrive. Alors Louis Ferreira, je connais pas d'ancien coureur pro qui s'appelle Ferreira. Je connais juste l'ancien joueur des Chamois Niortais qui s'appelait Armindo Ferreira, qui est passé par Niort à Châteauroux. Ça parlera peut-être à certains. Louis Ferreira, c'est quel profil?
Pur grimpeur. On est sur un athlète qui a pas commencé le vélo il y a si longtemps que ça. Qui a une ascension plutôt fulgurante, puisque troisième catégorie, il est très vite passé deuxième, très vite passé première, et cette année il a déjà été chercher des places sur de grosses courses élites. Donc on a un profil vraiment grimpeur.
Donc en complément de Jérémy Bilico et de Julien Azilosache.
C'est ça. On essaye de créer une équipe grimpeur pour pouvoir aller sur des courses vraiment difficiles avec 4 ou 5 coureurs vraiment typés grimpeurs.
Ça joue d'ailleurs dans votre recrutement, ça, le fait de recruter à la fois des grimpeurs, des sprinteurs, des rouleurs, ou au final, alors j'ai bien compris que votre démarche depuis plusieurs saisons, c'était de recruter, on va dire, dans la grande Nouvelle-Aquitaine, plutôt des jeunes coureurs. Est-ce qu'on se base avant tout sur le potentiel, à essayer de recruter ceux qu'on juge avoir le meilleur potentiel possible, ou est-ce que finalement, de recruter un peu dans chaque catégorie de coureurs, c'est aussi important?
Non, c'est important. Faut pas faire qu'une équipe de jeunes. Sinon, avec la réforme, c'est compliqué d'être en N1.
Oui.
En plus de ça, il faut aussi faire un recrutement intelligent. On peut pas avoir sur les 15 coureurs, on peut pas avoir 14 sprinteurs.
Il faut pas faire une B&B Hotel qui voulait recruter Cavendish et tous les sprinteurs un peu âgés.
Non, globalement, c'est vrai qu'il faut essayer d'harmoniser au maximum son effectif.
Ouais, ouais, tout à fait.
Parce que des courses qui arrivent au sprint, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup qui arrivent pas au sprint. Donc, il faut aussi avoir des coureurs capables de faire autre chose. Donc on réfléchit à tout ça quand on contacte les coureurs.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Arthur Beauchaud qui répond aux questions de Christian.
Ensuite, donc, la troisième recrue qui vient de Bressuire. Il me semble que, d'ailleurs, vous aviez un coureur qui venait de Bressuire l'année dernière.
Ouais.
Après, donc, Valérian Lajonas, cette fois, c'est Valérian Magnier qui vient renforcer Boran.
On prend tous les Valérians de Bressuire. Donc, non, Valérian, un très jeune coureur. Donc, lui, il sort des rangs juniors, qui a été chercher des places sur certaines internationales juniors, notamment la Bernedo, qui a gagné des courses. Donc, un coureur à potentiel dans à peu près le même profil que Valérian Lajonias. Donc, à voir ce que ça va donner.
Un autre junior, du coup, donc du cycle Poitevin, c'est Raphaël Delhomme.
Oui, Rafafa. Moi, je le connais depuis qu'il est tout petit. Donc, Rafafa, champion d'Europe de scratch cette année quand même.
D'accord, donc c'est aussi un pistard du coup.
Un pistard routier. Donc on est sur un athlète plutôt déjà confirmé, qui a une habitude du niveau et du très haut niveau. On est sur un athlète aussi listé Paris 2024, donc en préparation pour les JO. Donc on est sur quelqu'un vraiment à très très fort potentiel.
D'accord. Ensuite, on a le petit cousin de Jürgen Vandenbroucke. Donc, c'est Titouan Vandenbroucke. Il vient de Marmande.
Titouan, oui, exactement. Donc, pareil, un jeune qui se forme, qui arrive du VTT. On sait qu'il y a de plus en plus de passerelles entre le VTT et la route. Le VTT est un vivier de routiers performants, j'ai envie de dire. Donc, on va tenter l'aventure avec Titouan, essayer de le faire progresser. Et de l'amener comme on avait pu le faire avec Thomas Gachignard il y a 4 ans.
Avant d'évoquer les autres trucs, j'en profite d'évoquer aussi votre triathlète là, avec Clément Mignon, hein, qui a fait les championnats du monde d'Ironman, enfin de mi-Ironman, je vais y arriver, pardon, récemment. Clément, c'est quelqu'un qui va continuer avec vous l'an prochain, et qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça lui a apporté à lui cette collaboration avec vous?
Clément, on le voit pas beaucoup. Parce qu'il a un calendrier en Ironman qui est monstrueux, et le pire, c'est donc cette année, il s'est essayé à l'Ironman complet. Et en s'essayant à l'Ironman complet, il a été très performant parce qu'il a été faire troisième. Clément, on est vraiment sur l'athlète ultime, j'ai envie de dire.
Oui.
Le mec, il fait n'importe quoi. Il est fort. Nous, on le voit essentiellement sur le chrono par équipe. C'est une locomotive dans notre train qui est ultra performante, puisqu'il a cette capacité de rester longtemps à des vitesses, à de grandes vitesses, donc c'est l'un des rares moments où on le voit avec le vent.
Ensuite, donc on a Matteo Girotti, le Girondin qui vient de Luis Busquets, encore un junior du coup.
Encore un junior qui commence tout juste le vélo, donc il a pas énormément d'expérience. Par contre, il a une grande soif d'apprendre, un sérieux. Moi, je l'ai repris à l'entraînement là il y a quelques semaines, donc un sérieux qu'on peut pas renier. Donc un coureur aussi à fort potentiel. Il était athlète de haut niveau en rugby, donc rien à voir.
D'accord. Okay.
Mais il fait le pont en vélo. Il a déjà 2-3 résultats intéressants. Donc à voir ce que ça va donner aussi. Ouais.
En plus, c'est méritant, parce que c'est vrai que généralement les rugbymen sont assez costauds, donc transporter ça sur le vélo, ça doit être compliqué au départ.
Oui, au départ, je pense qu'il a dû faire comme beaucoup de sportifs, s'adapter à la nouvelle discipline, mais non, là il y est bien, et faut continuer à travailler, et il n'y a pas de raison que ça le fasse pas.
Et enfin, la dernière recrue donc listée par Direct Vélo, c'est Simon Bernard, rien à voir d'ailleurs avec Jérôme Bernard, le coureur de Jean de la Tour, qui a fait 2 fois le Tour de France. Lui, il arrive de Laval Cyclisme 53.
Oui, donc Simon, c'est un coureur qui est originaire de Poitiers, c'était déjà un excellent junior. Donc là, il a eu le temps de se former un peu à Laval. Il arrive un petit peu dans le même état d'esprit que Lilian, parce qu'il est déjà capable d'aller chercher des podiums ou des victoires en première et en élite. Donc on a un coureur qui progresse tous les ans, et à son rythme, la progression est logique, et globalement, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas une bonne saison. Pardon.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Arthur Beauchaud qui répond aux questions de Christian.
Oui, parce que finalement, vous êtes dans une logique qui est un peu contradictoire. Vous êtes dans une logique de former. Donc, qui dit former, dit qu'il faut laisser du temps aux coureurs pour progresser. Mais vous êtes aussi dans une logique de résultat pour marquer ces fameux points pour le verdict de la fin d'année prochaine. Donc, c'est vrai que c'est deux objectifs un peu contradictoires. À la fois, on veut former, donc il faut laisser aux jeunes le temps de progresser, peut-être de faire des erreurs. Mais à la fois, on veut aussi des résultats immédiats pour marquer des points.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, on essaye de faire au mieux, d'avoir des coureurs jeunes comme Lilian et Simon, qui ne sont pas si vieux que ça, mais qui ont déjà des capacités à gagner des courses ou à se retrouver sur les podiums, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Donc,
D'ailleurs, la moyenne d'âge de l'effectif l'année prochaine, sans compter potentiellement le 16e coureur, mais j'imagine qu'elle est encore très basse.
Oh, je l'ai pas, je me suis pas amusé à les calculer encore.
C'est aux alentours de 25 ans, non ?
Oh non, on va être autour de...
À calculer en 2023, déjà, certains prendront un an.
On va, oui, on va être autour de 22 ans, ouais.
Ah ouais, quand même, ouais.
Et donc au niveau des départs, donc il y en a deux listés chez Derek Bello. Le premier c'est Antonin Souchon, qui je crois qui a fait 2-3 saisons avec vous, un super coureur qui malheureusement avait chuté, il me semble, l'an passé.
Oui.
Donc lui il part à Sojasun Espoir.
Oui.
Donc ça c'est un jeune qui, il me semble, qu'il est arrivé de Poitiers, qui a beaucoup progressé dans votre équipe.
Oui, il était licencié au cycle Poitevin quand nous on l'a récupéré. Et puis, on a travaillé autant qu'on a pu avec Antonin. Et puis il a eu envie de voir autre chose, un autre calendrier, une autre façon de travailler. Donc il va découvrir le vélo à Rennes.
Et puis donc il y a Clément Le Boétès qui s'en va également à Charvieux-Chavagneux. Donc Clément Le Boétès qui était l'un de vos sprinters.
Oui. Oui, c'était un de nos sprinteurs et Clément part à Charvieux pour découvrir un nouveau calendrier. Donc c'est vrai que les équipes de l'Ouest courent assez rarement avec les équipes de l'Est. Donc là, il déménage en Isère et il va découvrir les courses de montagne.
D'accord, ok.
Très hautes montagnes même.
Est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui arrêtent ou qui ne sont pas conservés, qui ne sont pas listés dans le petit listing que j'ai, des choses que tu peux déjà dévoiler hein, sans trahir secret, bien sûr.
Oui, bah on a des coureurs comme Alexis Dijard qui arrête le vélo. Après, il était pas loin du record, il était à 6 saisons chez nous. Le record c'est 7.
Par qui ?
Sylvain Blanquefort.
D'accord.
Donc, Alexis arrête le vélo. Et on peut le comprendre, quand on a fait le tour de la question, c'est pas souvent bien d'insister. Voilà, il était peut-être un petit peu lassé, je pense, ou il avait envie de faire autre chose. Ce qui se comprend tout à fait. Ludo, lui, avec son travail, sa vie, pareil, il va arrêter le sport de haut niveau. Je pense que Ludo, il va continuer le vélo en première catégorie pour faire du vélo avec les gamins de son club, avec son frère et tout.
Donc on parle de Ludovic Nadon.
Ludovic Nadon, exactement. Ouais. Donc on va quand même recroiser Ludo, ça c'est pas le souci, mais plus chez nous. Après on a des coureurs Théo Bacco ou Jordan Fievez où globalement on arrête notre collaboration avec eux.
D'accord. Et puis la saison n'est pas terminée puisqu'en ce moment il y a un de vos coureurs qui est sous le soleil de Tahiti. En tout cas, on espère qu'il fait soleil et que les côtes sont pas trop dures à monter. C'est Ryan Lachny. Comment ça se passe pour lui ?
Ah ben notre Caldoche est rentré au pays. Une fois que la saison est terminée, il a fini Paris-Tour.
Est-ce qu'on rappelle qu'il est originaire de Nouvelle-Calédonie ?
C'est ça. Et on a fini Paris-Tour. Il est rentré. Il a pris son avion. Il est rentré au pays voir sa famille. Et puis il en profite autour de Nouvelle-Calédonie. Il y a plusieurs courses cet hiver. Donc il est autour de Tahiti, ça se passe plutôt très très bien. Il a gagné le chrono le premier jour. Il fait 7 de la deuxième étape où il perd son maillot, mais il était pas très loin de la gagne. Et aujourd'hui, enfin la nuit dernière, pour être très précis, oui. Avec le décalage horaire, il a gagné la troisième étape. C'est une étape de 134 km. Où ils arrivent à 3, enfin une échappée au long cours, ils arrivent à 3, il reprend le maillot de meilleur jeune, il est meilleur combatif, et il se trouve maintenant deuxième du général à 15 secondes de la gagne, donc suite au prochain épisode.
D'accord, on suivra ça avec Didier avec grand plaisir. Et puis en plus, si vous avez un pied-à-terre à Nouméa, ça peut être une destination pour un stage début de saison.
Assez sympa, ouais.
Oui. Alors, le temps d'avion.
L'Espagne c'est bon, sympa, mais la Nouvelle-Calédonie c'est encore mieux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un peu loin, mais ça doit être très beau.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 97, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports de lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Arthur Beauchaud, Océane Top 16, et Christian sous le feu croisé des questions.
C'est vrai que toi, Arthur, c'était une saison où t'as fait full directeur sportif. C'était ta première saison déjà en
Non, c'était déjà la deuxième.
Bon, c'est la deuxième, donc du coup, comment tu l'as vécu par rapport à la première? Est-ce que t'as eu une perception un peu différente du fait d'avoir déjà eu cette première saison d'expérience? Comment tu l'as vécu à titre personnel?
Oh, les deux saisons que j'ai connues étaient compliquées l'une comme l'autre. Je suis arrivé sur ma première année de DS, sur une année Covid où il fallait gérer les tests, les masques, où là c'était vraiment une usine à gaz. On passait beaucoup de temps à gérer tout ça. Et j'ai enchaîné avec une seconde année où on gérait les petits impondérables de la fédération avec une pression monstrueuse. Donc on a eu deux années plutôt éreintantes. Il faut s'y faire, mais on repart prêt pour l'an prochain.
Ouais. Ouais, puis j'imagine que quand on est directeur sportif, entraîneur, la saison doit paraître beaucoup plus longue. Moi, je me rappelle de Yohan Dumay, l'ancien entraîneur de la CFC, qui me disait que les joueurs jouaient le match, ça durait 90 minutes avec un peu plus d'échauffement. Il y avait certes les entraînements la semaine, mais que lui, il est pensé matin, midi, soir, et que parfois, il n'arrivait pas trop à endormir.
Ouais, c'est exactement ça. Moi, pour être très honnête, j'étais moins fatigué quand j'étais joueur.
Ouais. Alors qu'au final, tu mets plus un coup de pédale maintenant, ou presque.
Non, je mets même plus beaucoup de coups de pédale tout court, hein, pour être très honnête. Hormis les pédales de la voiture, je fais plus beaucoup de vélo, j'ai plus trop le temps. mais c'est vrai que c'est pas la même fatigue, ça c'est évident. Mais j'étais moins fatigué quand j'étais coureur, hein, c'était plus facile. Hein.
Ouais. D'ailleurs, le fait de basculer rapidement vers le côté directeur sportif, c'est le fait que ton père et ton grand-père soient eux-mêmes directeurs sportifs encadrant au comité qui t'ont transmis la flamme, ou est-ce que c'est toi finalement qui a rapidement eu la vocation?
Non, ça s'est pas fait si simplement que ça. Moi, j'ai commencé le vélo plutôt tardivement, à l'âge de 12 ans, donc j'ai eu le temps de tester plein de sports, et puis un jour ça m'a pété dans la tête en me disant tiens, c'est vrai que ça a l'air sympa quand même, parce que je vais voir de temps en temps le dimanche avec papa, donc allez, on va essayer. Et puis j'en suis là.
et donc on arrive bientôt à 2023, mais j'ai envie de dire que la saison elle commence dès maintenant, parce que va y avoir tout ce qui est un peu peut-être réception du nouveau matériel, ou alors peut-être, enfin, quel est ton quotidien du coup au mois de novembre? Les courses sont finies, mais toi le travail il continue?
On n'a pas eu beaucoup de temps mort, c'est-à-dire qu'on a fini la saison le 15 octobre, le soir Paris Tour. On s'est laissé 2-3 jours de pause, et puis après on a vite enchaîné à gérer les négociations de matériel, les négociations de tenue, les négociations de nutrition, à finaliser l'effectif, à commencer à penser à l'année suivante, à gérer les stages, à gérer tout ça. Donc on n'a pas trop le temps de se reposer, mais c'est pas grave, c'est du travail qui est intéressant. On a passé 2 jours en Espagne, on a été invité par une marque, notre future marque de vélo. On a été invité en Espagne à visiter les locaux, visiter les usines. Et c'est du travail qui est long, qui est chronophage, mais qui est vachement intéressant. Donc, c'est avec plaisir qu'on le fait.
D'ailleurs, en parlant d'Espagne, je fais un rapide crochet sur la fédération valencienne, ou Valence, oui, je crois que ça doit être ça, comme ça, ouais. de cyclisme, donc la région de Valence, là, qui est sur le bord de la Costa Blanca, pour vous dire que c'est mon coureur préféré quand j'étais gamin, qui est le nouveau président de la fédération.
Ah.
Donc José Enrique Gutiérrez.
Ok.
Qui courait chez Kelme et chez Fonac. C'est lui qui a été élu. Alors je sais pas si vos stages sont là-bas, mais
non, voilà.
En tout cas, c'est lui. Donc bravo à Kiki. Et donc là justement, est-ce que vous avez déjà finalisé votre calendrier 2023, ou au final vous êtes en attente un peu des épreuves, savoir si ça va se courir ou pas, comment vous planifiez finalement le calendrier?
On attend tout simplement que la fédération édite le calendrier. Comme ils sont assez rapides, nous on s'attache plutôt à appeler les organisateurs qu'on connaît déjà. Ça nous fait gagner un peu de temps.
Oui.
Parce que globalement le début de saison c'est premier week-end de février, et que globalement quand on a le calendrier première semaine de janvier, on est déjà bien.
Ah oui, donc finalement ça fait qu'un mois avant la reprise officielle.
C'est ça. Donc nous, en fait, on a déjà commencé là, à contacter les organisateurs qu'on connaît. On a la chance d'être bien avec beaucoup, beaucoup d'organisateurs. Donc on a une relation plutôt privilégiée, on arrive à les appeler, à les avoir par mail, par message, téléphone. Donc on passe du temps à les téléphoner, ils sont contents aussi qu'on les appelle.
Oui.
Nous on est contents de passer du temps avec eux parce que quand on les croise le week-end, on n'a pas forcément le temps de discuter. Donc non, on s'attache déjà à penser au calendrier. Les vacances, même pour les coureurs, vont être courtes puisqu'ils ont arrêté la saison le 15 octobre et que le premier stage de cohésion, c'est 12 novembre. Là, donc, ça arrive vite.
Quel est le programme des stages? Vous allez aller en Espagne, à l'étranger un petit peu? Comment vous organisez tout ça, toute cette avance, disons?
Déjà, on va commencer par faire le stage de cohésion la semaine prochaine, déjà, le 12 novembre. Ça arrive vite.
On roule dès ce premier stage ou pas?
Comment?
On roule dès ce premier stage ou pas?
Alors on roule pas forcément, et si on roule, il y a aucune notion d'entraînement ou de compétition. On est vraiment sur de la cohésion pure. Donc on a le premier stage de cohésion, puis après on va avoir des stages un peu plus typés entraînement décembre janvier. Et après on va attendre les prochaines nouvelles du Covid qui repartirait à fond les ballons là pour se prononcer sur la tenue ou pas du stage en Espagne.
D'accord, parce que cette année du coup en Covid les protocoles avaient disparu ou c'est encore en pétanque.
Ils ont été effectifs jusqu'au premier tiers de la saison. Après ils étaient là le deuxième tiers de la saison, mais les coureurs, les équipes et les organisateurs les demandaient plus. Et on a appris un peu par hasard qu'en juillet ils étaient annulés. Mais là, on commence à réentendre à droite, à gauche, que ça va revenir. Le Covid repart plutôt à fond. On est un petit peu dans l'attente là, de voir comment ça évolue.
Bon, en espérant quand même des nouvelles positives. Et puis c'est vrai que là, le début de saison, c'est toujours marqué par l'essor basque. Donc vous allez repérer les étapes du Tour de France avant les coureurs.
On va aller monter l'école basque avant, exactement. Le staff va goûter le fromage et le vin local, toujours.
L'essor basque, d'ailleurs, c'est une épreuve, donc c'est plusieurs courses, mais c'est que en France ou il y a des petits passages en Espagne aussi?
Ah, ça fait, ça doit faire maintenant une dizaine d'années qu'il n'y a plus de passages en Espagne. Avant, il y avait même une arrivée en Espagne, mais là, depuis 10 ans, je pense que pour des raisons de facilité d'organisation, je pense, il y a que des arrivées en France.
D'accord. En tout cas, c'est vrai que il y a une arrivée à Bayonne, je crois, sur le Tour de France. Donc, vous allez passer pas très loin de là-bas, j'imagine.
Ouais, on passe pas très loin de Bayonne sur la première étape. Après, on est un peu plus dans les petits cols basques sur le reste des étapes. Mais la première étape, on est proche de Bayonne. On part sur le fronton de mer, de toute façon. Donc.
Ouais. Ouais, ouais. Et qui dit mer derrière dit plage, donc vous allez l'enchaîner avec les plages vendéennes. Au final, les saisons, j'ai pas envie de dire que les saisons se suivent et se ressemblent, mais c'est un peu ça. En tout cas, il y a les premières étapes de saison, les sorts basques, les plages vendéennes, qui sont des courses où il faut être présent.
Oui. D'autant plus que comme l'an passé, la première Coupe de France va intervenir en février au Grand Prix d'Aix-en-Provence.
D'accord.
Donc les premières courses de la saison sont toujours importantes. L'essor basque parce que c'est à la maison. On est quand même une équipe de Nouvelle-Aquitaine avec une envie de performer en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'essor basque est toujours important. Les plages vendéennes, c'est aussi important parce qu'on a nos habitudes depuis plusieurs années. On est performant depuis plusieurs années. On fait encore deuxième du général l'an dernier aux plages vendéennes. Le mois de février est un mois dense. Ça met tout le monde dans le bain et c'est des courses qui nous tiennent à cœur. Donc oui, il faut être performant d'entrée. Ouais.
D'accord. Et par rapport au reste de la Coupe de France, vous avez déjà les. Est-ce que ce sera les mêmes épreuves ou ça reste encore à être déterminé?
Non, on a déjà les épreuves. Pour une fois, elles sont quasiment toutes proches de la maison. Donc ça, c'est cool. On a Aix-en-Provence, donc qui est la plus loin au mois de février. Après, on va enchaîner avec Bordeaux-Saintes, qui est vraiment là pour le coup à la maison. Après, on va avoir le Tour du Périgord, pareil, dans le sud de la Dordogne, donc pas très loin de chez nous. On va avoir le Grand Prix de Fougères en fin de saison.
En Bretagne, du coup.
À côté de Rennes, exactement. Et j'ai oublié, avant le Grand Prix de Fougères, il y a le Chrono 47, toujours dans le Lot.
D'accord.
Et j'en ai oublié une. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai fait le tour.
Oui, bah, au final, ça a pas mal d'épreuves dans le quart sud-ouest.
Oui, oui, oui. Et puis même Rennes, c'est pas très, très loin de chez nous. On y est vite. Sa route se fait bien. Donc, oui. C'est des courses qui. C'est pour moi, enfin, j'ai toujours dit que c'était l'une des plus belles courses de France, le Grand Prix de Fougères. Donc, j'ai hâte de manger ma galette de saucisse avant le départ.
Bah écoute, t'en mangeras une deuxième pour moi dans ce cas-là.
Pas de soucis, ça passe.
T'es dans la voiture, donc t'as le droit.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Arthur Beauchaud qui répond aux questions de Christian.
Et moi, je sais pas trop s'il y a encore le temps, mais je voulais aborder un dernier thème avec toi. C'est vrai que, alors moi, je suis plus un footeux qu'un cycliste, mais il y a des, alors c'est plus facile de retransmettre un match de football, j'en conviens, mais il y a des clubs de National 2 ou de National 3 par exemple qui se voient diffuser leurs matchs sur internet. Quand on est un club de cyclisme en DN1, comment on fait pour être visible? Alors il y a Facebook et tout, mais est-ce qu'il y a certaines courses qui peuvent être transmises?
Oui, il y en a de plus en plus. On est vraiment sur.
Ça aussi, ça peut être un axe de développement.
On est vraiment on est vraiment sur un axe plutôt exponentiel où en fait on a commencé à voir apparaître ça il y a 2-3 ans et là ça commence à devenir la norme en fait, où à chaque fois qu'il y a une course il y a un lien soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur des sites spécialisés où on peut suivre la course en direct, où il y a des motos, caméras, il y a tout ça. Donc c'est aussi pour ça, tout à l'heure je disais le cyclisme évolue vite et on se retrouve comme il y a 15 ans à certaines courses professionnelles qui découvraient les motos, caméras, et du coup on a de jeunes athlètes qui découvrent cette atmosphère de d'être suivi par une moto caméra. C'est toujours différent que les motos habituelles, elles nous collent un peu plus, elles sont plus proches. Donc c'est aussi un apprentissage qui s'accélère.
Ouais, et puis pour vous c'est gratifiant aussi d'être suivi. Ça permet à vos supporters en Charente de vous suivre malgré le fait que la course se dispute assez loin.
Exactement, ça offre beaucoup plus de visibilité aux structures, aux athlètes aussi. C'est une bonne chose. Ça c'est vraiment une bonne chose.
Et puis la dernière question que j'aurais par rapport à cet aspect-là, on voit sur le Tour de France pas mal d'échappées publicitaires entre guillemets. Est-ce que c'est aussi le cas du coup sur vos courses où vu qu'il y a des retransmissions, peut-être que du coup on tente de partir de plus loin?
Non, parce que les courses chez les pros sont plutôt stéréotypées. Oui. Même si je dois être très honnête avec vous, c'était moins le cas cette année puisque c'était la chasse aux points pour beaucoup d'équipes. Donc on a eu pas mal de courses professionnelles plutôt débridées et plutôt plus intéressantes à voir qu'à l'habitude. Mais non, nous chez les amateurs, il y en a très peu de courses où on a une échappée qui attend devant, un peloton qui contrôle derrière. Ça c'est moins en moins le cas, c'est plutôt à fond tout le temps, ça se tire la bourre en permanence. Pour la simple bonne raison qu'au départ des courses, il y a 150 athlètes qui veulent passer professionnel. Donc il ne faut pas attendre que ça se passe. Il faut essayer d'aller la chercher, l'occasion. Parce qu'elle ne se présente pas souvent.
Ça marche. Et puis pour terminer, cette fois vraiment, on va forcément parler du Tour de France. C'est l'épreuve phare dans l'Hexagone. Ah. Et puis en plus, qu'Angoumoisin, Charentais... Bon, maintenant, désormais, dans la Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt bien desservi cette saison en termes de Tour de France. On peut voir plusieurs étapes, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas tous les temps.
Non, c'est vrai. Ça fait bien longtemps. Non, parce qu'il était passé en Charente-Maritime il y a quelques temps. Mais globalement, là, on a.
C'était l'année dernière
ou il y a deux ans, ouais.
Oui, il y a deux ans, c'était l'étape entre les deux îles.
C'est ça. Donc, non, c'est vrai qu'on a un Tour de France qui est pas loin de la maison cette année, qui va changer un peu de l'habitude puisque on se retrouve tout de suite dans la montagne. Avant, on avait l'habitude d'avoir 2-3 jours de latence, des arrivées au sprint, plutôt une mise en route. Là, on arrive plutôt très très vite dans les Pyrénées, donc on est vite dans le vif du sujet. Et on va avoir un Tour de France qui globalement, je trouve, va être un peu plus dur que certaines années. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup d'étapes très très plates et très typées sprinter.
Oui, à voir. Après, il y a certains profils qui n'ont pas été dévoilés, notamment l'étape Libourne-Limoges, hein, où il y a sûrement des belles côtes, hein, dans le Limousin, donc peut-être qu'ils en feront quelques-unes. Et puis ma dernière question, et là c'est vraiment la dernière pour de vrai, est-ce que c'est un profil qui t'aurait plu, toi, en tant que cycliste?
Oh bah, quand on est cycliste, le Tour de France, il peut avoir n'importe quel profil, il nous plaît toujours, hein. Si on y est, ça c'est une évidence. Moi, c'est un... Oui, ça m'aurait plu parce que j'adore les Pyrénées, j'adore les cols pyrénéens. Je trouve qu'ils sont, c'est un peu de, je vais être un peu chauvin, mais je trouve qu'ils sont plus beaux que les cols alpins. Donc, ouais, moi c'est quelque chose qui me parle. J'adore l'Espagne, donc un départ au Pays Basque espagnol, qui est une énorme terre de vélo, ça va être énorme. Donc, c'est un tracé qui moi me plaît bien. J'ai hâte dès cet été et de pouvoir regarder la télé. Ouais.
Pour faire profiter nos auditeurs de votre avis éclairé, hors antenne, on discutait de savoir qui de Vingegaard, de Pogacar serait un des favoris. Et vous nous avez informé que et l'un et l'autre ne seraient pas certains de faire le Tour de France à 100%. Qu'en est-il?
On ne le sait pas. Et puis de toute façon, à notre échelle, on le saura au dernier moment. C'est une évidence. Mais c'est vrai qu'il y a... pas mal de coureurs quand on lit un petit peu la presse spécialisée qui parle du Giro, donc je pense que ça va se décider dans l'hiver. C'est une évidence que les équipes feront pas l'impasse sur le Tour de France, ça n'existera jamais. Mm-hmm. ou du moins pas maintenant. Mais c'est vrai, pour l'instant il y a Remco Evenepoel de mémoire qui a dû se prononcer qu'il voulait participer au Tour de France.
Que Lefebvre lui préférait qu'il attend une année, c'est ça?
Je crois.
Ouais, mais il a gagné la Volta, donc maintenant c'est bon, il est chaud là.
Ouais, il faut continuer sur la lancée. mais c'est vrai que le Giro plaît de plus en plus quand même. Hein.
Ouais, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant dans le cyclisme moderne finalement, c'est que maintenant on n'a plus de coureurs qui sont performants sur le Giro et sur le Tour, et c'est vrai que des ovnis comme Pogacar ou comme Evenepoel. Eh bien, moi je les verrais bien sur les deux. Au final, essayer de faire les deux. Forcément, c'est un calendrier qui est différent parce que maintenant on est habitué à préparer le Tour et que le Tour en termes de Grand Tour. Et puis ceux qui sont déçus du Tour vont sur la Volta en général.
C'est ça.
Moi je verrais bien pourquoi pas Pogacar tenter le Giro pour le gagner, parce que c'est un tour qu'il n'a jamais disputé, je crois, et puis le Tour derrière pour essayer de le regagner, lui qui est du coup double tenant du titre. Voilà, puis c'est vrai que des doublés de Giro Tour on n'a plus depuis Pantani 98, donc voilà, pour moi ce serait une belle manière de marquer la saison, donc je verrais bien sur ce challenge personnellement si j'étais son DS. En plus il a pas mal d'équipiers italiens, donc pourquoi pas.
Oui, alors c'est un enchaînement qui est compliqué, hein, Giro Tour. Ouais. C'est, faut être plus que très solide, hein, pour pouvoir être performant sur les deux. Enchaîner, c'est pas un souci. Être performant sur les deux, ça l'est d'autant plus. Mais après,
on a Bardet là, l'an passé, enfin cette année, qui aurait pu le faire. Bon, il a abandonné le Giro à la moitié, mais il était performant sur le Giro, et puis on voit sur le Tour qu'il est performant. Par contre, on voit également qu'il a explosé sur les deux dernières étapes de montagne.
Et c'est bien dommage d'ailleurs qu'il a abandonné le Giro comme il a dû le faire, parce qu'il était parti pour faire quelque chose
tout à fait
plutôt très exceptionnel. Avec Dessy, on va refaire le monde, mais
de toute façon on pourrait parler de Thibaut Pinot qui gagne le Tour de France 2019, on peut potentiellement parler de Romain Bardet qui gagne le Giro 2022.
Hein. De mon œil extérieur, je le voyais parti pour gagner le Giro quand même.
Oui, tout à fait.
Donc non,
il a abandonné sur maladie, non, c'est ça?
Je sais plus si
c'était chaud ou maladie. Oui, il me semble qu'il était malade, ouais.
Oui, il était malade, ouais, je crois.
Mais c'est vrai qu'il était parti sur quelque chose sur des bases solides.
Bon, si la route est encore très longue. Hein.
Oui, c'est sûr aussi.
Bien, parfait, messieurs, on arrive au terme de notre émission. Christian, est-ce qu'il y a une dernière question que tu souhaiterais poser à Arthur?
Oh ben non, moi je souhaiterais de bonnes fêtes de fin d'année à Arthur, et puis ben je lui dis qu'on se retrouve en cours de saison 2023 en espérant que les stages de pré-saison se passent bien et que le départ, parce que c'est vrai que les premières courses, c'est aussi prendre un peu la température et puis faire corps au sein de l'effectif. J'espère que les premières courses se passeront bien, parce que quand ça part bien en général, derrière la saison est plutôt réussie.
Non, mais merci beaucoup.
Arthur, quelque chose à ajouter peut-être, non?
Non, merci encore à vous de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir d'échanger là pendant une petite heure avec vous. Et
c'est un vrai plaisir.
Et puis bonne fête de fin d'année à tous. Et puis je vous dis à bientôt.
Merci Arthur. Donc on te souhaite à toi et à ton équipe le meilleur. Déjà passer au travers de éviter d'être malade parce que c'est ce qui est le plus important. Et ensuite de bien entendu on reviendra vers toi dans le cours d'année pour pouvoir suivre un petit peu les exploits de tes coursiers. Voilà Arthur. Merci encore d'avoir accepté notre émission. On te dit à très bientôt. Sans oublier un bonjour à ton papa quand même qui est toujours présent à nos pensées. Et donc on te dit à très bientôt Arthur, merci.
À bientôt à tous.